BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir avec peut-être des trackers et des ETF dont on parle régulièrement dans cette émission. Et aujourd'hui, on en parle avec vous, Christian Fontaine. Bonjour Christian.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes directeur délégué de la rédaction du Revenu avec nous pour parler de ces trois lettres qui semblent rendre l'investissement plus aisé, plus facile, moins cher pour beaucoup d'entre vous, peut-être. On va les mettre dans la conjoncture actuelle, ces trackers, Christian. D'abord, depuis combien de temps regardez-vous attentivement ces produits financiers ?
Alors, c'est des produits qui datent pas d'hier. Hein. C'est des produits qui viennent des États-Unis, mais ça existe depuis une vingtaine d'années. C'est vrai qu'en Europe, ça a commencé à se populariser auprès des investisseurs institutionnels. Et c'est que depuis quelques années que ça cartonne auprès des particuliers. Un chiffre, au premier trimestre, il y a eu 216 000 investisseurs particuliers qui ont acheté ou vendu au moins un ETF, c'est plus 30% par rapport au dernier trimestre 2023 et c'est plus 36% par rapport au premier trimestre 2023. Alors, beaucoup de nouveaux investisseurs notamment, puisqu'il y a eu 53 000 nouveaux investisseurs, nouveaux acheteurs en ETF au premier trimestre. Pourquoi ça marche si bien ? Ça marche en fait si bien pour des raisons structurelles, des raisons de fond et puis des raisons conjoncturelles. Les raisons de fond, d'abord, c'est un produit qui est accessible à tous. Vous parliez tout à l'heure en introduction que ça permet d'investir facilement en bourse, et vous avez tout dit, mais ça permet aussi d'investir avec quelques euros seulement. Quand vous voyez que certaines actions, Hermès, donc, mais aussi LVMH, valent en bourse plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, là, les ETF, c'est accessible à tous à partir de quelques euros seulement. Deuxième raison de ce succès, c'est que ça répond aux besoins de transparence, notamment des jeunes investisseurs, puisque un ETF, c'est un panier de titres, souvent un panier d'actions. Et en fait, la composition précise des ETF est disponible sur le site des gestionnaires d'ETF. Donc, il y a une transparence totale. Troisième raison du succès, c'est que ça répond aux besoins d'immédiateté des jeunes investisseurs. Lorsque vous investissez dans un ETF qui réplique, qui reproduit la performance du CAC 40 à la clôture de la bourse, à 17h30, heure de Paris, vous savez exactement combien vous avez perdu ou combien vous avez gagné. Mmh. Alors que si vous investissez dans un fonds d'investissement classique, il y a toujours deux ou trois jours de décalage d'écart entre la cotation du titre et l'évolution de la valeur liquidative. Et puis, bien sûr, la dernière raison du succès, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le prix. Donc, puisque c'est une façon d'investir en bourse, entre guillemets, low cost, puisque vous ne payez que, alors en moyenne, 0,2-0,3% de frais. Hein, c'est souvent 7-8 fois moins de frais qu'un fonds d'investissement géré de façon active. Mais le corollaire aussi, c'est que vous ferez aussi bien que l'indice, aussi bien que le CAC 40, aussi bien que le Dow Jones, aussi bien que le Standard & Poor's 500, mais vous ne ferez jamais mieux, ce qui est bien sûr la promesse de la gestion active.
Bon, qui a besoin de faire mieux que le Nasdaq en ce moment ?
Alors ça, c'est pas... Oui, ça, effectivement, depuis le début de l'année...
Pardon, pas sur les quelques derniers jours.
Hein, on doit être à plus 17 ou plus 18%. Qui a besoin de faire mieux, c'est une bonne question. Alors, ça, c'est en fait les raisons un peu structurelles du succès des ETF. Il y a aussi des raisons conjoncturelles. Dans la conjoncture actuelle, en fait, ça permet de répondre aux besoins quasiment de tous les types d'épargnants. Ça peut répondre aux besoins, entre guillemets, des bons pères de famille qui veulent se positionner sur le long terme, mais ça permet aussi d'avoir une gestion beaucoup plus dynamique et de spéculer sur les marchés. Spéculer à la hausse, spéculer à la baisse. Et donc, voilà, ça couvre tous les types de besoins, parce que certains ETF progressent multiplient par deux la performance du sous-jacent, et certains ETF progressent quand la bourse baisse.
Bon, il y a tout de même des frais dans les ETF. Oui, ils ne sont pas très élevés, ils sont clairement en dessous de 1%, ça c'est clair, mais il y a des frais, vous êtes notre monsieur frais, Christian. Que faut-il retenir des frais et des ETF ?
Alors, effectivement, derrière votre question, c'est est-ce qu'il y a pas un peu des frais cachés ? Alors, les frais de gestion, on vient les évoquer, ils sont ce qu'ils sont, j'y reviendrai pas. Mais c'est vrai que si vous investissez en ETF via une enveloppe fiscale particulière, par exemple un contrat d'assurance vie, il faut ajouter les frais du contrat d'assurance vie. Et puis, si vous investissez toujours via l'assurance vie, par exemple, ou un PER, il peut y avoir des frais d'arbitrage lorsque vous souhaitez passer d'un ETF à l'autre. Et puis surtout, si vous investissez classiquement via un compte titres ordinaire, par exemple, ou un PEA, en fait, il n'y a pas de frais d'entrée sur les ETF, mais il y a ce qu'on appelle des frais de courtage, puisqu'un ETF s'achète et se vend comme une action. Et donc, ces frais de courtage, c'est 0,1-0,2% en moyenne. Tout dépend un petit peu de votre intermédiaire financier et du montant de votre or. Donc, il n'y a pas véritablement de frais cachés, mais vous faites bien de le préciser, au-delà des frais de gestion dont on parle largement sur votre antenne et aux revenus, eh ben, il y a d'autres types de frais à prendre en considération.
Est-ce que vous pouvez nous donner une grille de sélection des bons ETF à avoir en portefeuille, si possible de manière conjoncturelle?
Alors, bon, c'est vrai, il y a d'abord peut-être les critères de choix d'un bon ETF. Alors, il faut déjà décider la zone géographique sur laquelle vous voulez investir. On en a déjà parlé sur votre antenne. Au revenu, on considère qu'il faut investir dans la conjoncture actuelle, environ 45% de son portefeuille en actions américaines. Donc déjà, vous avez la zone géographique. Ensuite, vous devez choisir l'indice que vous voulez répliquer. Bon, par exemple, pour la bourse américaine, l'indice qui est le plus suivi par les professionnels et qu'il faut répliquer, c'est le Standard & Poor's 500, qui est beaucoup plus diversifié, investi sur 500 valeurs, beaucoup plus diversifié que le Dow Jones, par exemple. Et puis, vous devez vous intéresser à la société qui va gérer cette ETF. Bon, en France, vous avez deux ou trois grands noms, bien sûr Amundi, bien sûr BNP, bien sûr iShares, qui est la marque, donc leur ETF filiale de BlackRock. Vous avez Vanguard, donc alors, qui propose des produits en France. Donc ça, c'est quelques critères. J'en rajouterai deux ou trois autres. D'abord, la taille de l'ETF. Vous savez, un ETF, c'est un produit. Et il va avoir une vie. Exactement comme un pot de yaourt, quoi. Donc, vous avez le brassé, le yaourt classique, le yaourt 0%. Donc, alors, le yaourt aux fruits. Pour les ETF, c'est pareil. Alors, il faut mieux se positionner sur un ETF qui fonctionne. Alors, pourquoi? Parce que déjà, s'il marche, il collecte. Ça veut dire qu'a priori, je dirais que la zone géographique sur laquelle il est investi est l'indice. Donc, alors, est un bon indice dans la conjoncture actuelle. Donc, il faut regarder l'encours. C'est un élément important. Et puis, un ETF, c'est un produit. Et un ETF qui a un petit encours, c'est un ETF qui pourrait disparaître. Vous voyez, c'est des gammes qui vivent tous les jours. Il y a de nouveaux ETF tous les jours. Il y a des ETF qui disparaissent. Donc ça, c'est un autre critère de choix. Les frais, bien sûr. L'éligibilité de votre ETF à telle ou telle enveloppe fiscale. Est-ce qu'il distribue des dividendes? Est-ce qu'il est couvert ou non contre les risques de change? Quelle est la méthode de réplication de l'indice synthétique ou réel? Vous voyez, il y a de nombreux critères de choix d'un bon ETF. Alors, je veux dire, si vous êtes un peu perdu, ben, regardez, lisez la presse patrimoniale et les sélections d'ETF que l'on propose. Ça vous simplifiera la vie.
Bon, vous avez parlé de la BNP, d'Amundi, d'iShares, côté BlackRock. On a parlé de Vanguard. Il y a aussi Morgan Stanley, puisque le MSCI World, auquel on a dédié une séquence la semaine dernière, est un ETF qui est proposé par la société Morgan Stanley. C'est le plus populaire, le MSCI World. C'est une référence pour beaucoup de professionnels. Quel est votre regard, vous, sur les ETF qui répliquent le MSCI World?
Bah, écoutez, le MSCI World, donc, c'est un indice qui réplique en fait la performance des actions des pays développés. C'est un indice qui est très diversifié, puisqu'il est investi sur quelques 1500 valeurs, grandes et moyennes, mais surtout grandes, de 23 pays développés. Donc, c'est un indice qui est positionné sur les bourses des pays développés, qui sont quand même les plus performantes depuis une dizaine d'années. C'est un indice qui est largement investi aux États-Unis et d'une façon générale en actions nord-américaines qui doivent représenter plus de 70% de l'indice. Donc, dès que vous investissez donc en un clic dans cet indice, ben, vous investissez essentiellement en actions américaines, donc notamment dans les fameux GAFAM, donc les fameuses sept magnifiques, les Google, Apple, Amazon et autres. Donc, en quelque sorte, vous investissez et vous profitez du boom de la tech tout en, je dirais, diversifiant vos placements, puisque donc, alors, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc, c'est plutôt assez astucieux. Je dirais que les limites de cet investissement ou d'un ETF qui réplique l'indice MSCI World, c'est que cet indice était calculé en dollars. Donc, si vous êtes sensible au taux de change euro-dollar, donc si le dollar progresse, plutôt le cas en ce moment, eh ben, je dirais que vous allez en profiter, c'est-à-dire que votre placement va évoluer comme le sous-jacent et progressera encore davantage si le dollar augmente, mais l'inverse est vrai aussi. Donc il y a un risque de change. On le rappellera quand même, on est dans la bourse, hein. Donc il y a aucune garantie sur le capital, hein. C'est quand même un tout petit peu plus compliqué que le livret A, on va être clair, hein. Ça ne s'achète pas au coin de la rue, ça s'achète pas souvent, ça peut s'acheter dans sa banque, mais il faut ouvrir un compte titre ordinaire ou il faut ouvrir un contrat d'assurance vie, il faut ouvrir un PEA, donc une enveloppe fiscale au sein de laquelle vous allez l'acheter. Donc voilà, donc personnellement, je pense beaucoup de bien de cet indice, hein, qui fait le buzz, hein, sur les réseaux sociaux. Vous avez des communautés entières sur X, Twitter, passionnées par cet indice. N'y mettez pas quand même, ne mettez pas l'intégralité de votre argent là-dessus. Alors, tout à l'heure, vous citiez les nouveaux produits. C'est vrai que iShares vient de proposer un indice, un tracker qui suit l'indice MSCI Worldwide, qui est éligible au PEA. Et ça, c'est assez intéressant, hein, parce que c'est pas tous les jours que le premier gestionnaire au monde propose donc un produit destiné exclusivement aux investisseurs français qui veulent investir dans cet indice via le PEA. Mais c'est quand même c'est significatif sur, je dirais, l'importance du PEA pour les investisseurs français, puis l'importance de cet indice MSCI Worldwide.
Voilà, l'indice MSCI World qui, effectivement, fédère des communautés sur X, mais aussi sur Reddit, où c'est très, très... Il y a beaucoup de forums sur cet indice. Merci beaucoup, Christian Fontaine, pour ce topo sur pourquoi les ETF cartonnent. Christian Fontaine, de la rédaction du Revenu, au décryptage des tendances de fonds, des tendances plus éphémères qui concernent nos comportements.